Tu sais, parce que quand tu commences une communauté, puis qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des questions, puis qui arrivent de des parcours différents, puis qui veulent comme, pas nécessairement qui veulent changer ton cours, mais qui remettent des choses en question, c'est très puissant, puis c'est même déstabilisant en début de processus.
Bonjour et bienvenue à ce 16e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitat et communautés intentionnelles au Québec et partout à travers le monde, ou en tout cas pour aujourd'hui. Puis chaque communauté a son histoire et c'est ça qu'on vous propose de découvrir ensemble. Fait que moi, mon nom, c'est Hugo. Et aujourd'hui, on a la chance de parler à Jess Cam. Salut Jess, ça va bien?
Salut, merci. Oui, ça va super bien.
Et Martin est de retour avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Martin?
Salut tout le monde, ça va très bien. Merci.
Merci à vous deux d'être là aujourd'hui avec moi. On commence comment on fait souvent. Un petit tour de table, comment je me sens, avec quelle énergie j'arrive. Martin, ça te tente-tu de commencer?
Bien sûr, bien sûr. Ça va peut-être faire descendre un peu l'énergie. J'ai dû faire, je vous l'ai dit, mais j'ai dû faire une méditation, un peu de yoga avant de l'enregistrement. Je me suis levé avec une énergie. Je sais pas, c'est peut-être le café que j'ai bu, j'en bois plus souvent, donc là, c'est peut-être le café qui est là. Puis il y a une partie de moi aussi qui pense parce que notre invité d'aujourd'hui, mais je m'en vais la rejoindre dans à peu près 20 jours, fait qu'il y a quelque chose d'émotionnel là, qui est là pour moi, là, qui me donne beaucoup de joie et de bonheur, puis je suis content de la voir avec son merveilleux sourire aujourd'hui.
Yeah, de mon côté, je me sens vraiment déposée. Je viens juste de boire un grand cacao, puis j'ai fait une petite cérémonie ce matin. Fait que je me sens, ouais, je me sens vraiment présente dans mon cœur, puis excitée.
Moi, j'arrive avec de la reconnaissance parce qu'on a, on est en panne d'électricité ici. Puis là, on a une génératrice, là, fait que ça se voit pas en ce moment. Puis je suis au centre communautaire qui a une génératrice, mais tout le reste chez nous, il y avait pas d'électricité. Puis on manque d'électricité à peu près à toutes les 2 semaines, 3 semaines, parce qu'on est dans un endroit où mais c'est pas juste nous, là, c'est tout le village de Ham-Nord, Notre-Dame, Chesterville. Il y a comme une ligne qui elle coupe souvent, là. Puis dans le sens que, ben, premièrement, je reconnaissais qu'on a de l'électricité. On n'y pense pas souvent, mais nous, on en a dans des pays industrialisés, puis c'est comme on le prend pour acquis. Puis, deuxièmement, je suis content qu'on ait la génératrice pour qu'on puisse quand même faire notre truc aujourd'hui, parce que sinon, on pourrait pas. Sinon, je me sens bien. J'ai le goût d'avoir une belle discussion. J'ai le goût d'avoir du fun avec vous autres aujourd'hui. Fait que Jess, tu peux-tu te présenter? T'as quel âge? Pour les gens qui te connaissent pas, c'est quoi ton occupation principale? Comme, qui es-tu, grosso modo?
Ouais, mon nom c'est Jess, comme tu l'as dit, Jess Cam. J'ai 31 ans. J'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Acro Tantra, qui est une fusion entre Acro Yoga et Tantra, ce qui veut dire que on apporte plus de présence et plus de communication consciente et de sécurité dans la pratique d'acro-yoga à travers la présence puis le consentement. Donc, pour moi, ça a été un outil qui a été très, très, très utile pour aller dans la pratique de tantra sans utiliser l'énergie sexuelle, mais plutôt avoir, tu sais, le côté Le côté qu'on a quand on interagit sexuellement, qui est comme un risque, tu sais, une vulnérabilité, une confiance qui se développe. Il y a le toucher, il y a la connexion avec l'autre. Puis l'acroyoga, ça me permettait d'avoir tous ces éléments-là sans avoir l'aspect sexuel. Fait que je me suis dit, waouh, c'est tellement l'outil idéal pour utiliser le tantra puis se pratiquer avant d'avoir des interactions plus poussées avec d'autres êtres humains, tu sais, pour être capable d'incorporer ça dans le corps physique. Fait que ça, c'est mon petit jouet. C'est ma compagnie. Mais au-delà de ça, mon rêve de vie, ma mission, c'est d'inspirer, c'est de créer un lieu où est-ce que les gens peuvent aller se ressourcer et en repartir en ayant l'envie de vivre plus simplement, de vivre plus connecté avec la terre et de vivre dans son cœur. Pour moi, j'ai toujours été fascinée par le fait de marcher nu-pieds, puis c'est d'ailleurs pour ça que je suis au Costa Rica, parce que pour moi, c'était comme un must. Je me suis posé les questions, c'est quoi les choses les plus importantes pour moi au niveau humain? T'sais, qu'est-ce que je peux pas vivre sans? Puis je me suis dit, ben moi, ça me prend de l'air pur, ça me prend de l'eau pure, ça me prend de la nourriture fraîche, puis moi, j'aime beaucoup les fruits, fait que les fruits tropicaux, t'sais, je me suis dit, je veux pas me sentir coupable si, genre, je gaspille une papaye puis qu'il faut que je la jette à la poubelle, alors que là où est-ce que je suis, c'est comme, je mange des fruits tropicaux à tous les jours, puis s'il y a des pertes, ben en fait, c'est pas des pertes, c'est un cadeau pour le futur fruit qui va pousser, je le redonne à la terre, tu sais. Puis une autre chose, c'était de marcher nu-pieds, fait que pour moi, ça comble tous mes besoins. Donc, j'étais à la recherche d'un lieu où est-ce que je pourrais m'émanciper puis grandir en tant que leader, puis aussi en tant qu'être humain, simplement pour moi, c'est pour mon bénéfice. Puis avec la COVID, j'ai vraiment réalisé que là, il était temps que je passe à l'action. Puis j'ai trouvé le lieu après plusieurs recherches partout en Amérique centrale, après avoir été au Guatemala, au Mexique, voyagé beaucoup partout au Costa Rica. Puis je me rappelle quand j'avais début vingtaine, j'arrêtais pas d'avoir le même rêve. Le rêve que je marchais sur une terre rouge nu-pieds, puis que je vivais dans une communauté de gens qui avec des enfants qui couraient partout. Mais à ce moment-là, je savais même pas ça voulait dire quoi, vivre en communauté. J'arrêtais pas d'avoir le même rêve over and over. Puis là, à un moment donné, quand je suis arrivée au Costa Rica, puis j'ai vu la terre rouge, puis j'ai juste comme baissé les yeux pour regarder mes pieds. Puis j'ai eu le flash de ce rêve-là que j'avais pas eu depuis longtemps, qui était sur repeat. Puis là, j'ai fait, OK, c'est ici. Puis j'ai compris que c'était le Costa Rica. Enfin, en tout cas, longue histoire pour te dire qui je suis, mais ouais, fait que je suis passionnée par les ressources, par les relations humaines. J'ai commencé mon parcours de croissance personnelle, j'avais 18 ans. J'ai eu la chance de faire un programme qui s'appelle Écoute ton corps en français avec ma mère, qui a été ultra transformateur. On a fait beaucoup de ménage intergénérationnel ensemble, puis ça m'a poussée à devenir la femme que je suis aujourd'hui.
Puis comment ce parcours de vivre ensemble commence pour toi? Comment est-ce que tu as eu au début, tu sais, tu connaissais pas ça. Puis là, à un moment donné, il doit avoir eu un élément déclencheur qui t'a poussé à t'enfoncer dans un trou de lapin qui est super profond puis qui est super le fun à découvrir.
Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a aimé être entouré. Tu sais, j'ai toujours, même, tu sais, l'acroyoga, c'est une communauté de gens qui sont hyper proches. Tu sais, en l'espace de comme 2 minutes, quand tu joues avec quelqu'un, c'est comme si on s'en fout de où est-ce que tu viens, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est juste une connexion pure cœur à cœur, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'a attirée autant vers cet univers-là, c'est parce que j'avais un besoin de connecter depuis que je suis bébé. Là, j'ai toujours été comme en recherche de connexion d'humain à humain, puis d'âme à âme. Fait que pour moi, c'est juste comme un besoin. Bien, je pense que c'est tous les humains, en fait. C'est juste que des fois, on a besoin comme l'équilibre de chaque personne est différent entre les moments seuls puis les moments avec des gens. C'est drôle parce qu'en vieillissant, je réalise que mon besoin de solitude devient plus grand qu'il l'était avant. C'est comme si avant, je cherchais peut-être un peu de validation à travers le groupe, tu sais, puis j'avais besoin d'être entourée tout le temps. Puis là, on dirait que je me retrouve à me redécouvrir le besoin de beaucoup de moments de solitude pour être capable, après ça, quand je suis en groupe, d'être complètement présente puis de redonner avec 100% de mon âme puis de mon cœur. Fait que le vivre ensemble, pour moi, c'est comme c'est un besoin essentiel. C'est le besoin de connecter avec l'humain. Puis à travers ça, d'apprendre à me connaître, parce que moi, je dis tout le temps que de vivre en communauté, c'est un peu comme être sur une cérémonie d'ayahuasca à temps plein, là, dans le sens que tu as des miroirs grossissants partout, tu sais. Fait que l'outil ultime de croissance personnelle, c'est de vivre avec plein de monde, là.
Oui, absolument. Oui, c'est pas la première fois que je l'entends et je te confirme que c'est vrai, là. T'es souvent à ramener à toi-même puis à regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe.
Un bel équilibre entre la collectivité puis le côté plus, pas nécessairement introspectif, mais personnel, des moments pour se recueillir. On a tous besoin de ça, là, d'un petit cocon sécuritaire à nous, là. C'est essentiel.
Puis, ce que je te dis, communauté intentionnelle, à quoi tu penses?
Ben, c'est ce qui va faire le changement dans le monde, je pense, parce que si on parle de communauté qui n'est pas intentionnelle, je pense pas que ça va être sustainable, que ça va durer dans le temps. Puis c'est ça qu'on voit dans les sociétés actuelles. C'est comme si on a oublié c'était quoi notre rêve de société, tu sais. Parce que si on n'a pas une intention, si on n'a pas une direction, un rêve ensemble, ça se peut que. Parce que, tu sais, tu parlais justement, Martin, là, de l'individu versus le collectif. Si en tant qu'individu, on n'a pas un rêve collectif, on va se tirer la couverte de différents côtés, puis ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de cohérence dans la direction dans laquelle on se dirige. Donc, quand tu me dis communauté intentionnelle, pour moi, c'est la fondation. C'est la base de créer une communauté. Si l'intention n'est pas claire, ça va être mal compris, puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de conflits. Fait que plus l'intention est claire, puis qu'elle est imprégnée dans la culture de la communauté, dans l'essence de comment on sent qu'on va dans cette communauté-là, plus que ça va être facile. Parce que comme ça, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, aussitôt qu'ils arrivent, ils sont comme, OK, voici la structure en place, voici la culture qui a été établie. C'est plus facile de flower, tu sais, puis de comprendre vers quelle direction la communauté se dirige.
Oh, oui,
Wow.
la raison d'être, c'est comme la mission que tout le monde se rallie derrière ça, parce que il y a souvent beaucoup de diversité d'opinions, de différentes personnalités, puis des gens qui n'ont pas tout le temps les mêmes valeurs. Mais quand t'as comme une chose sur laquelle tout le monde est comme d'accord, ben là, oui, c'est comme on pousse tout le monde dans cette direction-là, la majorité du temps.
C'est vrai que ce soit un changement aussi, tu sais, on y a beaucoup pensé, nous, à c'est quoi nos piliers, tu sais, à Protopia, où est-ce que j'habite au Costa Rica, puis, tu sais, on se dit, si mettons quelqu'un arrive, là, puis qui est passionné de telle affaire, tu sais, puis que nous, on se laisse imprégner par la passion des autres aussi, là, tu sais, si quelqu'un est comme un master dans une chose en particulier, mettons, il y aurait quelqu'un qui triperait sur les abeilles, puis qui voudrait vraiment juste comme passer tout son temps à faire ça, puis à faire du miel, moi, je serais comme, OK, go, là, on le fait, tu sais. C'est pas. Ben, ça serait aligné en fait avec notre mission, là, qui est la permaculture, mais c'est comme. Je pense que, tu sais, étant humain, on est constamment en évolution. Donc, je pense qu'il y a besoin. La mission et la vision ont besoin aussi d'être comme un certain degré flexible pour s'adapter avec l'humain qui est constamment en changement. Si on reste dans la rigidité, c'est pas nécessairement. Ben, ça devient de la résistance au changement, en fait.
Puis il y a juste le changement qui change pas, fait que c'est comme on est tout le temps en évolution. Au moment où tu t'arrêtes de changer, c'est le moment où que la communauté va commencer à mourir, tu sais.
Ouais, puis c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai étudié en enseignement primaire. Puis ce que j'ai appris sur le cerveau, c'est qu'à partir du moment qu'on arrête d'apprendre, il n'y a pas de. Stagnancy, il n'y a pas de stagnation.
Stagnation.
Dans le fond, c'est soit qu'on apprend quelque chose de nouveau puis on continue à créer des nouvelles connexions neuronales ou les connexions meurent. Donc, il n'y a pas de pause. C'est soit on apprend, soit on est en train de, soit notre cerveau est en train de dépérir. C'est vraiment intéressant cette relation-là au changement.
Oui, t'as parlé de Protopia. Tu peux-tu nous expliquer c'est quoi ta communauté, puis quand est-ce que ça a commencé?
Ouais, Protopia, en fait, c'est une communauté qui est super embryonnaire encore parce que moi, j'ai joint la communauté, ça fait 8 mois de ça, peut-être même neuf maintenant. Donc, je dis le mot embryonnaire il y a 9 mois. c'était une communauté, au départ, c'était pas une communauté, en fait. Au départ, ça a été construit par le propriétaire qui s'appelle Alban, qui vient de Kosovo. Et lui, dans le fond, il a construit cet établissement-là dans l'idée d'avoir tous les membres de sa compagnie, qui est une compagnie de tech, qui est super pro-socialiste. Dans le fond, lui, il veut créer un Amazon qui redonne aux gens. Donc, qu'il n'y aurait pas un propriétaire, que ce serait comme une coopérative. Puis ça demande plein de gens de tech qui travaillent avec lui. Mais ça, c'est un des projets sur lesquels il travaille, là. Il fait comme plein de choses en même temps. Et la gang de tech. Tu sais, tu t'imagines, là, mettons, là, on est entre deux volcans, full deep dans jungle, hyper tropical, puis là, t'as une gang de tech qui arrivent avec leurs ordinateurs, puis qui veulent comme pas de moustiques, que l'humidité, ça marche pas trop avec leurs ordinateurs, qui ont besoin, tu sais, eux autres, qui ont besoin plus d'aller en ville souvent, tu sais, puis qui sont habitués d'avoir des choses comme, mettons, aller au cinéma, aller au restaurant, blablabla, puis nous autres, on est comme vraiment deep dans jungle, tu sais, fait que ça n'a pas fonctionné. Puis là, Alban, tu sais, lui, il a construit toutes les buildings où est-ce qu'on est, les établissements, les structures ont été construits à partir d'arbres qui étaient déjà tombés. Puis nous, comme on est vraiment dans une montagne, il n'y a pas de machine qui peut se rendre là. Tout a été transporté par des mules, tiré par des mules ou des buffles à la corde pour. Puis c'est des méga structures là, gigantesques. Là, tu sais, notre plafond de l'établissement principal, je pense qu'il est genre 7 mètres ou même plus. Je pense que c'est 9. En tout cas, super haut. Puis il s'est dit, hey, je peux pas vendre l'endroit. J'aime trop le lieu. J'ai mis tellement d'amour. Puis tu sais, ça se voit là, qu'il a mis beaucoup d'amour dans l'endroit. Fait qu'il s'est dit, ben moi, je vais chercher quelqu'un qui est prêt à s'investir en temps, au niveau temps et amour, tu sais, pour que le lieu devienne un espace qui est self-sustainable, qui financièrement, tu sais, puis aussi au niveau de l'humain. Fait que c'est là que JP puis moi sont très bons amis maintenant, ex-partenaires, mais j'aime mieux l'appeler par son prénom, JP. Et on s'est dit, c'est tellement exactement ce qu'on recherche. On passe à l'action, on va voir le lieu. On est tombé en amour avec la place, on est tombé en amour avec Alban. Puis là-bas, ce qui est magnifique, c'est que c'est rempli d'arbres fruitiers matures. Puis tu sais, pour ceux qui connaissent pas trop le principe de comment ça prend le temps de pousser un arbre, là, tu sais, des fois, ça peut prendre entre 5 et 10 ans avant d'avoir des fruits, là. Fait que nous, de débarquer dans un lieu où est-ce que les arbres sont déjà matures puis qui offrent déjà des fruits, c'était comme, OK, that's it. Puis là-bas, c'est comme, tu fais juste comme échapper une graine de papaye ou genre tu lances une graine de quelque chose puis ça pousse, là. C'est hyper abondant. C'est dans un cloud forest, dans le fond. Fait que c'est comme tout le temps, c'est tout le temps luxuriant, vert, vraiment riche. La terre est ultra, ultra riche, là. Fait que c'est ça. C'est un bébé projet qui a 8 mois maintenant. En ce moment, on se concentre sur les événements, les retraites, pour pouvoir avoir un roulement financier, pour être en mesure de construire plus d'habitations, pour ensuite être en mesure d'avoir plus de gens qui vivent avec nous de façon permanente, qui aient chacun leur petite maison.
Cool. Mais Alban, lui, ça faisait combien de temps qu'il avait comme acheté cet endroit-là puis commencé à construire des bâtiments, tu sais?
Il a passé 3 ans sur la communauté. Dans le fond, lui, il y avait des volontaires, il y avait des gens qui venaient. Puis, ouais, quand nous, on est arrivés, ça faisait 3 ans. Fait que là, ça va faire presque 4 ans là, qu'il a acheté la terre là-bas au Costa Rica.
Tu sais, tantôt, t'as dit on est en deux volcans. Quand je faisais des recherches un peu pour l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, mais je tombais sur un post de toi qui était en train de filmer un volcan en éruption. Puis là, tu parlais à quel point ça t'avait Ça t'avait comme mouvé à l'intérieur, là, si je peux dire ainsi. Puis j'ai remarqué sur certaines de tes affiches, de tes événements, il y a un volcan aussi. Tu peux-tu comme nous dire le volcan, il représente quoi pour toi?
Oh, moi, je suis comme la Volcano Girl. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais comme eu l'intention de faire ça, mais je pense que j'ai une énergie assez volcanique aussi, dans le sens que je suis quelqu'un qui passe à l'action, qui a du courage. Tu sais, d'être un leader dans son domaine, ça demande du courage. Parce que des fois, les gens qui se mettent en avant, c'est les gens qui vont se faire critiquer le plus. Mais le volcan, pour moi, ça représente, tu sais, c'est autant l'esprit de la montagne qui est comme super groundé puis comme au centre, tu sais, c'est un triangle, fait que ça a une fondation hyper solide. Puis en même temps, ça a un feu intérieur qui passe à l'action. Tu sais, c'est comme, mais le volcan que tu as vu qui est en éruption, c'est pas au Costa Rica, c'est au Guatemala.
D'accord.
Puis au Guatemala, moi, je suis comme entre deux mondes. J'organise des événements ici au Guatemala, au lac Atitlan, parce que c'est une porte, ici, c'est un portail énergétique vibrant, là, c'est comme il y a des. C'est là aussi que mon changement de vie a commencé parce que quand, durant la pandémie, là, tu sais, en octobre, là, quand ils nous ont dit, là, ah, les Québécois, si vous n'êtes pas vaccinés, vous allez devoir quitter le pays, puis là, il va avoir des. Vous n'allez pas pouvoir aller à l'épicerie, blablabla. Il y avait foule de restrictions qui commençaient. Moi, j'ai dit, ciao, bye. J'ai donné des au revoir à ma famille puis à mes amis, là, en sachant pas si j'allais un jour pouvoir revenir au Canada. Ça a été pour moi un méga deuil. Et quand je suis partie, je suis venue ici, exactement où est-ce que je suis en ce moment, à Tsumuna, au lac Atitlan. Puis, je suis tombée en amour avec la place. Ça a transformé ma vie. J'ai eu tellement de déblocage mental, là. Ça a été l'endroit le plus propulseur pour moi. Mais je savais que c'était pas ici que j'allais m'établir. Parce que ici, au Guatemala, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'eau potable. C'est très sec. C'est pas la même. C'est une énergie de changement. C'est un endroit où est-ce que tu vas pour travailler sur toi-même, puis c'est pas nécessairement toujours facile. Par contre, le Costa Rica, c'est genre le ventre d'une maman chaude, là. Tu sais, c'est comme ultra tropical, abondant, c'est chaud, tu sais, c'est pas du tout la même énergie, là. Mais j'aime les deux, j'aime le contraste parce qu'ici, ça me permet de travailler sur moi-même, puis après ça, de retourner dans le confort. C'est important d'avoir les deux, je pense. Mais ouais, tout ça pour répondre à ta question, le volcan, pour moi, c'est la force tranquille qui attend le bon moment pour passer à l'action.
Puis on rentre dans le sujet qui est vraiment ce qui m'a fait dire que oui, on t'invite à ce podcast-là parce que c'est pertinent, c'est dans le moment. Tu organises une retraite qui s'appelle Ensemble au Costa Rica, si je ne me trompe pas,
Oui, chez moi.
à Protopia. Et puis, peux-tu nous dresser un portrait de ça? Il va y avoir combien de personnes? Comment tout ça a commencé? Let's go.
Oui, avec plaisir. Ouais, en fait, Patricia Gagnon et Valérie Lemelin, qui est maintenant Sage, on s'est dit, OK, on a envie de faire une retraite ensemble, mais on veut pas que ce soit quelque chose de comme hyper, juste comme hop la vie, on va faire, on c'est comme tout inclus style, tu vas juste avoir du fun, puis après ça, tu repars chez toi, puis tu n'as pas vraiment appris quelque chose qui va te servir pour le restant de ta vie, tu sais. Puis on avait envie de co-créer quelque chose où est-ce que les gens allaient sentir qu'ils faisaient partie. Moi, c'est de plus en plus ça que je fais à Protopia, c'est des espèces de gatherings ou des événements où est-ce que les gens font partie du déroulement, plus en mode justement immersion communautaire, là. Puis on s'est dit, de qui nous autres on veut apprendre? Tu sais, parce que nous autres, on est tous dans nos communautés, tu sais, Patricia qui est le triangle d'été. Sage qui a sa compagnie de soins puis qui vit à l'Oasis, puis moi qui vis au Costa Rica à Potopia. Fait que là, on s'est dit, OK, Mois de février, les Québécois, ils vont avoir envie d'explorer autre chose. Fait qu'on fait, on crée quelque chose au Costa Rica. Ça, c'était comme facile, décision faite. Voilà. Ensuite, on se dit, c'est qui les piliers au Québec qui ont eu les guts de se partir en entreprise, puis qui marchent le chemin, là. Tu sais, les gens qui font le travail, puis de qui nous, on veut apprendre. Parce que moi, en étant un bébé, en étant je dirais que je suis un bébé leader de communauté parce que j'apprends, tu sais, je trouve que ça me rend extrêmement humble à chaque jour de me rendre compte à quel point je connais rien, là. Mais je me suis dit, OK, de qui je veux apprendre? Puis là, je me suis dit, OK, moi, les gars de Solutions RA, c'est clair que je veux apprendre d'eux autres parce que c'est comme, ben, c'est des piliers au Québec, tu sais, on le sait, c'est des gars qui sont hyper fonceurs, qui vont passer à l'action, puis sont vraiment dans la manifestation de leurs rêves, là, tu sais, sont présents. Puis après ça, on continue à brainstormer, puis on était comme, ah, tu sais, les firmes Valhalla, c'est vraiment cool. On va regarder avec Marc Angelo s'il aurait envie de venir, puis il a répondu oui à l'appel. Fait que on s'est dit, OK, là, on a une team solide. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? C'est comme ça qu'on a bâti l'horaire, parce que si on s'était dit, on va juste faire un mishmash de tout ce qu'on connaît ensemble, tu sais, c'est comme avec quoi les gens repartent. Nous, on s'est dit, on veut que les gens repartent avec un purpose, une excitation, mais aussi avec une direction claire. Parce que comme on disait au début de la conversation, si tu n'as pas une intention claire dans ta communauté ou dans ton rêve de communauté, tu vas peut-être te diriger un peu par hasard à quelque part, tu sais, mais tu ne sauras pas où tu veux aller. Fait que quand tu repars avec une décision claire, puis des options pour passer à l'action directement, moi, en tout cas, quand je commençais mon chemin de chercher des communautés, si on m'avait offert ça sur un plateau d'argent comme ça, là, puis on m'avait dit, hey Jess, tu vas rencontrer les plus grands, ben pas les plus grands piliers du Québec, là, mais des grands piliers du Québec qui vont partager leurs do's and don'ts, tu sais, les choses qu'ils ont appris durant leur parcours, puis qu'ils vont t'offrir des propositions pour passer à l'action à la fin de la retraite, j'aurais sauté là-dessus, c'est clair, là. Fait que, ouais. En fait, moi, à chaque fois que je construis une retraite ou que j'organise un événement, je me dis tout le temps, qu'est-ce que moi, j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais à la recherche, tu sais. Puis à partir de là, c'est comme ça m'inspire, ça me pousse à passer à l'action parce que c'est pas pour moi que je le fais. Ben, je le fais pour moi, mais à travers mon désir de partager ce que j'ai appris, tu sais. Fait que c'est un win-win pour tout le monde.
Tu le fais pour toi, mais comme le passe, toi dans le passé.
Ouais, c'est ça. Puis en même temps, quand j'enseigne ce genre de choses-là, j'apprends tellement, tu sais. Là, moi, je suis full excitée d'en apprendre des gars, mais tu sais, ce que moi aussi, je vais partager, c'est comme juste notre interaction en ce moment. Quand je te parle, je viens réancrer à chaque fois ce que je suis en train de penser, tu sais. Fait que je fais une solidification des circuits mentaux.
Nice. Mon Dieu. Qu'est-ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que lorsque j'ai vu la publication de la retraite ensemble, j'étais au Costa Rica, dans ma chambre, la vue sur l'océan Pacifique, puis j'ai fait voir qu'elle fait ça, voir qu'elle fait une retraite au Costa Rica, puis je suis ici, je suis là, puis j'ai vu le team que tu as monté, j'ai fait, oh mon Dieu, elle s'est pas entourée de n'importe qui, là, j'ai fait, OK, c'est comme vraiment des gens inspirants. Il y a un bel équilibre, trois gars, trois filles, toutes qui sont dans l'action, dans le mouvement, sont des acteurs de changement. Je t'ai écrit, je pense tout de suite après, j'ai dit, Jess, j'ai une coupe d'affaires à ajuster, mais je suis là, je reviens. C'était mon premier voyage pour moi, voilà 3 mois. Puis là, je dis, bon, ben, dans 3 autres mois, je vais revenir au Costa Rica. Puis let's go. On se pose pas de questions avec tous ces acteurs-là. Oui. Ouais.
Yeah, nice. J'aime vraiment ton support. Puis, tu sais, pour moi, Martin aussi, c'est cool parce que tu as vraiment été là depuis le début de ma recherche de communauté. Puis, ouais, ça a été vraiment beau de te côtoyer à travers ça, puis de te voir grandir aussi à travers ton propre processus, là. Ouais.
Wow. Ben oui, je me rappelle, et mon Dieu, c'était sur une publication de futurs éco-villageois recherchés, voilà 3 ans. une publication sur qui veut se partir une communauté. Puis j'ai vu que tu avais commenté, ah, oh, je veux me partir une communauté au Costa Rica. Puis je t'avais répondu, je pense que le soir même, on a décidé de s'appeler. On a parlé comme 1 heure et demie de temps dans les 2, 3 semaines qui se. On ne se connaissait pas du tout, puis on s'est appelé le soir même. Puis je pense pendant les 2, 3 semaines, on s'appelait comme 3, 4 fois. On parlait comme des longues heures. C'est comme, waouh, et donc mes tripantes. Je me rappelle aussi que tu es venu au premier vagabondage à Terre Sauvage. Et je me rappelle quelque chose que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, hey, j'ai été voir quand même plusieurs communautés. Puis j'ai vraiment un coup de cœur pour Terre Sauvage. C'est probablement une de mes préférées communautés. Puis je sentais déjà la wild creature en toi, là, le côté comment Terre Sauvage, c'est très organique, c'est très en connexion avec la nature. On marche nos pieds, puis on.
Mais moi, je viens de l'Abitibi, hein. Fait que, tu sais, j'ai grandi sur le bord d'un lac dans le fin fond du bois en jouant avec les grenouilles puis les serpents. Fait que, tu sais, pour moi, le Terre Sauvage, c'est proche de là où j'ai grandi. Puis c'est, tu sais, marcher nu-pieds jusqu'au mois de novembre, puis chasser, puis manger tu sais, de faire son propre feu. Puis tout ça, pour moi, c'était comme un retour à la maison, tu sais. Fait que, Terre Sauvage, je le porte vraiment dans mon cœur, là. Ouais, c'est ma communauté préférée du Québec.
Oh. Nice.
Puis t'as visité des communautés au Québec puis à travers le monde aussi. À part Terre Sauvage, t'as-tu coup de cœur pour d'autres?
Oui, ah, c'est drôle parce que là, je viens juste d'en visiter une il y a quelques jours ici au Guatemala qui s'appelle Mystical Yoga Farm, qui est comme une espèce de rainbow gathering à 100%. Tu sais, mettons, la critique qu'ils reçoivent, c'est qu'ils sont vraiment très airy, là, tu sais, c'est comme c'est le hippie paradise, le Disneyland. Mais ça m'a changé, je te jure, là, j'ai tellement eu un bon moment parce que je suis allée là pour un événement qui s'appelle Heart Song, puis moi, je suis quelqu'un qui a, qui, je vais changer mon vocabulaire, je débute mon passage vers le chant. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette communauté-là parce qu'on était une centaine de personnes alentour du feu pendant 3 jours. Puis chaque personne a partagé au moins une chanson. Puis de voir les gens qui n'ont jamais même chanté devant quelqu'un, chanter et leader, pas juste chanter, chanter et leader une centaine de personnes pour la première fois, puis de les voir pleurer, puis de le faire moi-même, ça l'a été vraiment puissant. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, nos ancêtres, là, ils chantaient tout le temps. Tu sais, puis c'est ça qui fait partie de la culture. C'est ça qui vient ancrer une culture. Le chant, c'est une façon de raconter des histoires. C'est une façon de se rappeler de certaines choses. Mais c'est aussi une façon de vibrer de l'intérieur pour avoir une cohérence en tant que communauté. Fait que moi, quand j'ai vu à quel point c'était intégré dans leur communauté, je me suis dit, waouh, moi, je veux faire ça à la maison. Je veux être quelqu'un qui apporte cette cohérence-là. Parce que on est tous vibration. À l'intérieur de nous, tu sais, on est 75% d'eau. Fait qu'on est constitué de vibrations. Fait que quand on vient s'harmoniser avec le chant, c'est qu'on vient se mettre sur la même vibration. T'sais, comme on dit, ah, on est sur la même vibe, t'sais. Fait que ça crée moins de conflits, ça crée une cohésion de communauté. Puis aussi, je dirais même qu'au-delà de ça, de la façon que nos cordes vocales sont faites en tant qu'être humain, on n'est pas vraiment fait pour parler. On est fait pour chanter. On est fait pour faire des longs sons. T'sais, comme dans les hommes des cavernes, là, t'sais, ils criaient, mettons, d'une place à l'autre, ou t'sais, ils faisaient plus des sons, puis c'était plus comme dans le corps, là, t'sais, des genres de ou des sons plus deep, là. Fait que, en tout cas, j'ai été vraiment inspirée par qu'est-ce qu'ils font, puis ça va définitivement changer ma façon de l'aider la communauté au Costa Rica.
Fait que tu lis ta communauté en faisant des sons de gorge, puis des chants, puis tu parles plus. C'est juste
On
des
va apprendre
bruits.
à l'utiliser,
Non, mais il y a quelque chose que tu parlais de vibration, puis qu'on vibre tout le monde ensemble. T'sais. Pour moi, c'est vraiment l'harmonie. Autant tu peux dire l'harmonie musicale, d'une pièce où les notes s'agencent bien ensemble et que ça donne quelque chose de beau. Puis autant ça peut être l'harmonie d'un groupe qui réussit à garder cette essence-là, puis à être ensemble de façon à ce que le tout donne quelque chose de beau. Pour nous ici, c'est une valeur très... c'est marqué dans tous nos documents, là. C'est une des valeurs principales, l'harmonie. Dans nos ententes, c'est écrit, l'harmonie est plus importante que l'idéologie. C'est quand on va s'ostiner parce que on a deux pensées différentes, mais c'est plus important d'être harmonieux ensemble que peu importe quelle idée qui pourrait venir à être en contradiction.
Et ça fait tellement du sens d'utiliser le chant pour qu'est-ce que tu dis, parce que quand tu y penses juste physiquement, là, si on regarde le mental et le cœur, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est la gorge. Fait que si je viens activer le chant, c'est que je vais reconnecter l'idéologie vers le cœur. Fait que c'est là qu'on va aller trouver l'harmonie, tu sais. Moi, ça fait tellement du sens d'aller plus dans le champ dans mon parcours. Ouais.
C'est cool. C'est cool.
J'ai une petite phrase, je crois que c'est de Marshall Rosenberg dans la communication non violente. Il dit, dans la vie, tu as deux choix. Soit tu décides d'avoir raison, soit tu décides d'être heureux. Il y a plein de compromis à faire dans les humains, puis des fois on veut tellement voir notre idée, avoir raison. Est-ce que ça prime davantage que ton idée, ta façon de voir les choses voit le jour, ou qu'il y ait une belle harmonie entre ta vision, celle de l'autre, puis comment qu'on fait pour harmoniser tout ça ensemble?
C'est vraiment une belle question parce que ça a été quelque chose qui a pour moi été un peu challengeant dans la dernière community immersion qu'on a eue à Protopia, où est-ce qu'on avait plein de volontaires qui venaient passer du temps avec nous, tu sais, puis ça m'a amené à me poser la question, c'est quoi nos piliers fondateurs, puis où est-ce qu'on peut se modifier, se plier, puis où est-ce qu'on a à exprimer nos limites, tu sais. Parce que tu disais, tu sais, d'avoir raison. Puis ça a tellement été un bel apprentissage pour moi de savoir comment exprimer mes limites de façon claire et douce, tu sais, puis sans que ce soit dans la rigidité, mais avec le cœur, puis de se rappeler le pourquoi, tu sais. C'est vraiment, tu sais, moi j'aime voir les enfants dans tout le monde, là. Puis de se rappeler qu'on est tous en apprentissage. Puis quand je regardais les gens, puis de la façon que on interagissait ensemble par rapport à des règles dans la communauté. Je me voyais aussi en étant comme un enfant qui apprend, là. Mais des fois, j'avais tendance à vouloir comme dire, ben non, ici, c'est comme ça, tu sais, c'est ça la règle ici. Puis là, après ça, je devenais dans un processus de pensée de comme, OK, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut faire? Ou, tu sais, parce que quand tu commences une communauté, puis qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des questions, puis qui arrivent de des parcours différents, puis qui veulent comme, pas nécessairement qui veulent changer ton corps, mais qui remettent des choses en question, c'est très puissant. Puis c'est même déstabilisant en début de processus parce que c'est comme, ah ben là, j'ai-tu raison? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Puis est-ce que, tu sais, pourquoi qu'on fait, ça nous a aidé en fait à redéfinir notre fondation, puis à redéfinir notre intention, puis à être encore plus solide pour le futur, en fait, parce que là, on se dit, OK, c'est quoi vraiment qui est important pour nous, là, tu sais. Ça revient un peu à ce qu'on disait au début, l'importance de la fondation.
C'est quelque chose qui est très présent dans les communautés, là. Des nouvelles personnes qui arrivent, et ces personnes-là, ils ont leur parcours, ils ont leur vécu, ils ont leurs idées, ils ont leur vision de qu'est-ce que devrait être une communauté ou un projet d'écouvelage. Et puis là, ils arrivent, puis ils ont toute une belle joie, peut-être un peu naïve ou joviale, pleine d'espoir et d'espérance. Puis là, il arrive, hey, on devrait faire ça, puis on devrait faire ça, puis on devrait faire ça, puis pourquoi on n'a pas fait ça? Puis c'est beau comme énergie, mais pour les personnes qui font le projet, puis qui ont déjà plein d'idées, puis plein de projets sur la table, d'accepter ça ou de l'écouter, de le recevoir, puis des fois de dire, merci pour tes idées, c'est parfait, c'était pas la direction qu'on va prendre tout de suite pour l'instant. Viens essayer la communauté, la vie en communauté, viens t'impliquer dans les projets qui sont déjà là, puis tranquillement, partage-nous ta vision, puis tranquillement, le build-up, le construire ensemble. Et
C'est l'attitude humaine du conquérant, tu sais, que j'arrive à quelque part. Moi, ça m'amène au principe 1 de la permaculture, de l'observation d'abord, tu sais. Si moi, je débarque à quelque part, puis que je pense que j'ai raison, puis je veux tout changer, peut-être que j'ai des questions à me poser à comme, est-ce que je comprends d'abord c'est quoi vraiment que les gens font à cet endroit-là, puis pourquoi moi, je veux changer ça, tu sais. Ouais, c'est des questions que je me pose souvent aussi. Mais moi, ça m'a amené au processus de pensée de comme leur demander à ces gens-là s'ils sont heureux, tu sais. Parce qu'au début, je me disais, ah, je veux accommoder tout le monde, tu sais, je veux que tout le monde se sente heureux, puis je veux que, tu sais, s'il y a des gens qui commencent à critiquer ou à pas être bien, tu sais, qu'on s'assure que, tu sais, qu'ils sont bien, puis comme nous plier un peu de plus en plus pour faire en sorte que tout le monde est content. Mais en réalité, c'est que on perdait notre intégrité, tu sais. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'est correct de laisser aller certaines personnes. T'sais. C'est ça aussi qui est la beauté de créer une communauté intentionnelle. C'est que vu qu'on est une communauté intentionnelle qui a une direction, nécessairement, on n'est pas pour tout le monde. Puis c'est dans ce laisser aller là de dire, ben d'accord, t'sais, si toi, ça ne te convient pas, notre mode de vie, ben c'est parfait. T'sais. Je te souhaite toute la chance du monde, puis l'amour du monde. Puis j'espère que tu vas trouver vraiment exactement ce que tu cherches. T'sais. Puis c'est correct si toi, c'est pas ça qui te convient, tu sais. Puis avec le cœur de laisser aller ces gens-là, tu sais, je pense que c'est important de faire ce processus-là, que j'avais de la difficulté à laisser aller. C'est comme si je voulais tellement que les gens restent, tu sais.
Oui, tu parles de laisser aller, c'est beau, j'aime vraiment la maturité que tu as dans ton projet, dans tes idées, je trouve que tu vois clair, puis j'adore ça. Tu sais, dans faire la transition vers un mode de vie alternatif dans une communauté intentionnelle, là, c'est quand même très différent de la société de consommation qu'on est habitué. Puis le monde arrive là, des fois, avec tellement de belles idées puis de beaux projets, mais de l'incarner puis de le mettre dans la réalité, c'est pas toujours aussi facile. Des fois, on veut des choses, puis on l'essaye, puis on se rend compte que, oh, OK, c'est pas exactement qu'est-ce que je pensais. Puis il y a plusieurs projets qui voient le jour, puis dans les 2 premières années, je pense qu'il y a 90% des projets qui arrêtent. J'en fais partie, j'ai essayé une communauté, puis faut pas voir ça comme un échec, là. Là, je parle à tout le monde qui peut nous écouter, là. Vous voyez pas ça comme un échec. C'est rempli de cadeaux, c'est rempli d'apprentissage. Tu as commencé une communauté, tu as vu c'était quoi, tu t'es mis en interaction avec les autres personnes, puis en fin de compte, tu te rends compte que c'est pas pour toi, avec cette communauté-là en particulière, mais tu as appris à mieux te connaître, à mettre tes limites, à savoir ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi, puis peut-être que dans 1 an, tu vas essayer une autre communauté, puis ça va être là, plus en lien avec tes valeurs. Puis peut-être qu'elle aussi ne va pas fonctionner. Puis tu vas en essayer une troisième, puis tu vas faire, OK, là, je commence à être très solide, je sais pas mal qu'est-ce que je veux. Puis au lieu d'être juste un acteur qui observe, puis qui est dans le début de son cheminement, tu vas peut-être être un pilier d'une communauté, puis dire, hey, je suis assez solide, j'en ai vu assez, je suis prêt à porter ce projet-là, puis d'être là, puis de. C'est très beau, tout ce processus-là. Soyez indulgents envers vous. Ça prend du temps à faire une transition vers un nouveau monde.
Ouais, c'est d'aller défaire des structures mentales. En fait, moi, je pense qu'une des plus beaux, un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus en étant un bébé leader de communauté, c'est que j'ai réalisé, en fait, dernièrement, que je recréais des patterns de société dans lesquels moi, j'ai grandi, tu sais. Puis là, à travers certains feedbacks puis de l'auto-observation, j'ai réalisé, waouh! Pourquoi je fais ça? Ben, en fait, c'est que des fois, c'est la seule chose qu'on connaît. T'sais. Fait qu'on a tendance à recréer quelque chose qu'on a appris par le passé. Puis là, c'est à travers cette observation-là, cette réalisation-là, que je peux faire un pivot, puis faire comme, non, moi, je veux faire différemment. Puis c'est pour ça que je suis dans une communauté intentionnelle. T'sais. Puis je pense que c'est important d'avoir l'humilité aussi de se rendre compte de ces choses-là, puis de dire, hey, on va rediriger notre énergie ailleurs, on va changer cette chose-là qu'on pensait qui était un pilier, tu sais. Puis de dire, ben écoute, on apprend, tu sais, on apprend tout le monde ensemble, puis il n'y a pas d'erreur, tu sais, ça fait partie du processus d'évolution d'être constamment en changement. Fait que c'est pas, comme tu dis, c'est pas une erreur, c'est juste une redirection. Bien, en fait, C'est même pas une redirection, c'est un apprentissage sur soi. C'est une connaissance, une meilleure connaissance de soi pour ensuite prendre des décisions plus alignées. Puis de dire non à quelqu'un ou de dire non à quelque chose, c'est de se dire oui à soi, tu sais. Puis moi, ce qui me parle le plus, là, c'est de rester dans mon intégrité de plus en plus. Là, c'est quoi mon intégrité à moi? C'est quoi mon vrai oui? Parce que si je dis oui à quelqu'un d'autre puis que je veux vraiment plus dire non, c'est qu'à long terme, je perds ma structure, je perds mon intégrité, puis je peux pas être autant brillante, je peux pas être autant alignée puis inspirante si je suis pas en intégrité. Puis moi, ça, c'est mon but ultime dans la vie, c'est d'être inspirante et d'inspirer les gens. Donc ça me rappelle à tous les jours de rester sur mon X, de rester dans mon intégrité, puis de parler de façon authentique, même si des fois, c'est pas facile.
On pourrait en parler très longtemps. On peut enchaîner un peu avec les questions parce que là, on avance. Une question que j'ai pour toi. Vous êtes combien en ce moment à Protopia? Tu me dis que ça fait comme 8-9 mois que toi, tu commences ou tu mets vraiment une intention. Il y a combien de personnes en ce moment? Et dans. Ça serait quoi comme le maximum de personnes que tu vois? Est-ce que tu vois comme 100 personnes? Est-ce que tu vois que ça c'est juste un 20 personnes? Ça serait quoi un peu tout ça là?
Pour moi, je suis encore dans la configuration de qu'est-ce que ça va être. On a 14 hectares, donc je n'ai pas nécessairement envie qu'on soit jam-pack un paquet de monde. Là, dans le fond, on vient juste de terminer une immersion de 2 mois où est-ce qu'on recevait plein de volontaires. Puis moi, je n'ai pas envie de faire comme OK, on ouvre les portes à n'importe qui de venir habiter avec nous, à moins que ce soit dans un contenant où est-ce qu'il y a un début puis une fin. Puis de cette communauté-là, de cette immersion en communauté-là, on peut faire un processus de sélection naturelle de qui est-ce qui pourrait être intéressé à vivre à long terme. Mais pour moi, ça doit se faire de façon naturelle. C'est pas quelqu'un qui débarque qui dit, OK, moi j'investis puis je m'achète une maison sur votre terrain puis that's it, je fais partie de la communauté. T'sais. Je pense que c'est important qu'on apprenne à se connaître puis qu'on découvre si ça fonctionne ensemble. Mais en ce moment, dans le fond, c'est juste JP puis moi qui sont les deux piliers du projet avec le propriétaire Alban qui est complètement, il est très impliqué financièrement, mais il n'est pas impliqué, il veut pas être impliqué en fait dans le processus décisionnel de comment la communauté va se dérouler pour lui. Il veut juste que ce soit sustainable financièrement, puis il nous laisse les rênes complètement là, du lieu. Notre intention, moi, j'ai pas envie que ce soit une méga communauté. Tu sais, je veux que ça se fasse tranquillement. Tu sais, moi, je crois que la solution, c'est par le lentement, là. Tu sais, le slow is fast. Donc, j'ai pas envie qu'on se dépêche à construire puis qu'on se dépêche à trouver des gens. En ce moment, on est très bien rodés pour faire des retraites qui peuvent aller jusqu'à 50 personnes. Mais en tant que communauté, on n'a pas encore assez d'établissements, tu sais, de maisons pour être en mesure d'accueillir des gens qui vivraient avec nous de façon permanente en dehors du centre de retraite. Parce qu'on a le centre communautaire, puis on a les petites casitas qui sont comme toutes près l'une de l'autre, mais on a aussi un espace de terre qui est comme plus vers le haut où est-ce qu'on aurait la vue sur le volcan. Où est-ce qu'on veut construire les maisons de façon pour les gens qui vont vivre de façon permanente avec nous à la communauté. Mais ça prend des fonds. Fait que le temps qu'on se rende là, ça va peut-être prendre quelques années. Puis je pense que ça va laisser le temps suffisamment pour la filtration de se faire naturellement, là, de qui va rester avec nous sur la Terre.
Je peux dire que ça va se faire de façon naturelle. Je le vois, il y a des personnes qui rentrent, qui veulent tellement, mais que c'est pas adapté. Le processus se fait naturel. Puis c'est une belle vision que tu as de lentement, que ça se fasse naturellement, de façon organique, au rythme des saisons, à vivre des cycles, puis tranquillement, le monde va venir, vont sortir, puis ils vont peut-être revenir. Fait que
Ouais, puis avant qu'on reçoive des gens sur la Terre, tu sais, comme on a eu un community immersion de 2 mois, mais avant ça, on a passé comme 6 mois et demi, même peut-être 7, à être complètement tout seul dans la jungle, tu sais, à vraiment s'imprégner de la Terre en mode full-on hermit, Puis en étant justement dans l'observation et non la modification de la terre, en écoutant, en regardant, en observant comment l'eau coule,
Ben
en observant où est-ce que la terre est comment, tu sais. Puis moi, là, ça a été vraiment comme une cérémonie de 6 mois et demi, là, tu sais, parce que même dans ce temps-là, JP, il travaillait parfois dans des retraites, tu sais, où est-ce que lui, il partait, mettons, à d'autres endroits au Costa Rica, puis moi, j'étais toute seule à la communauté, puis c'est tellement en puissance, tu sais, d'être tout seul dans la vraie jungle. Tu sais, quand on parle de la jungle, mettons, du Mexique ou genre même du Guatemala, c'est plus une forêt, genre, tu sais, c'est comme une jungle, mais nous autres au Costa, c'est comme une jungle comme dans un film, là. C'est genre, il y a des lianes, puis il y a des singes, puis c'est la vraie jungle, tu
C'est
sais.
Jurassic Park.
Ouais, c'est ça. Fait que d'être toute seule dans la jungle puis de passer du temps, tu sais, vraiment à m'imprégner de la nature là-bas, ça a été un beau processus de ralentir, de se connecter avec les saisons, puis de comprendre qu'il y a un bon moment pour toute chose, puis que c'est correct de prendre son temps, tu sais. Parce que la nature, c'est pas en tirant sur une fleur qu'elle va fleurir, hein, tu sais, elle a son propre rythme. Puis moi, en tant que femme, ça m'a beaucoup appris aussi à respecter mon propre rythme interne, puis de ralentir, de... Parce qu'en réalité, là, tu sais, actuellement dans le monde, là, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a de la pollution sur la planète Terre, c'est pas parce que la Terre est malade, c'est parce que on a perdu l'union, on a perdu cette connexion-là avec la Terre. T'sais, si je prends soin de moi, nécessairement, je vais prendre soin de la Terre. T'sais, comme je disais dans le live hier, en anglais, ils disent dirty pour le. Ben, ils disent dirt qui vient de dirty pour la Terre, le sol. T'sais. Puis je suis comme, waouh, t'sais, à quel point on est déconnecté pour dire que la Terre est sale alors que c'est notre mère. T'sais, c'est pas juste de là qu'on vient, c'est de ça qu'on est. On est de la poussière d'étoiles. T'sais, on est fait de ça, tu sais. Fait que si je pense que, genre, ben, premièrement, si je me dis que, ah, il faut vraiment absolument que je lave mes légumes comme une carotte, mettons qu'il y a de la terre avant de la manger, c'est peut-être parce qu'on a des questions à se poser. Peut-être qu'il y a trop, justement, d'éléments qui viennent changer, soit de chimiques ou tu sais, des gens qui mettraient trop de choses pour modifier la terre. Parce que, en réalité, si la terre est saine, si je mange une carotte que je viens cueillir puis qu'il y a encore de la terre dessus, c'est très bon pour moi. Il y a de la vitamine B12, il y a plein de bons minéraux dans la terre, tu sais. Fait que pour moi, ça a été aussi ce processus-là de me reconnecter avec qu'est-ce que ça veut dire être connecté avec la terre, avec Pachamama, tu sais. Fait que je pense que de passer des moments de silence puis de se rappeler que, ouais, que c'est pas séparé de nous. C'est très bénéfique pour tous.
Tantôt, tu disais tu pouvais accueillir jusqu'à 50 personnes à Protopia pour la retraite ensemble, le rassemblement que tu organises là, avec les gars de Solution Era, puis Marcangelo Campola, puis Patricia et Sage. Il y a combien de personnes dans la retraite? Puis j'imagine qu'il y a encore des places. Est-ce que les gens, puis comment ils feraient pour s'inscrire?
Oui, il reste encore des places. Ben, c'est sur le site de Valérie Lemelin, dans le fond. La retraite s'appelle Ensemble. Je ne sais pas où est-ce que je peux mettre les informations ou le lien pour les gens qui puissent aller voir, mais sinon, ils peuvent m'envoyer un message privé aussi là, sur Facebook, JessCam, puis je pourrais envoyer le lien. Mais présentement, je pense qu'on est à 18 ou 20 inscriptions. On pourrait se rendre jusqu'à 40, mais je pense que 40, là, on serait quand même serré parce qu'on est 6 facilitateurs, là. Fait que, tu sais, je voudrais pas trop pousser au-delà de la capacité. Mon intention, c'est qu'on crée un contenant où est-ce que tout le monde se sent vu et entendu, que ce soit quand même assez intime, là. Dans mon idéal, là, ce serait 30. 30 participants, ce serait mon idéal.
Je le mettrai dans la description de l'épisode, le lien, j'irai le chercher.
Parfait.
C'est un plus de qualité que de quantité. Et dans plein de festivals, il était comme lorsqu'il y a trop de monde, des fois, on voit plein de monde, C'est difficile de prendre le temps de connecter avec chacun d'eux lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Peut-être ça fait avec Stéphanie, ça fait 5 ans qu'on fait des vivons en éco-communauté, des immersions dans des communautés au Québec. Puis les grosses années, quand il y avait 40 personnes, 50 personnes, on fait tellement de workshops, de formations que tu n'as pas le temps de connecter avec tout le monde. Tu prends le temps de connecter avec certaines personnes que tu développes, c'est tellement riche, c'est beau, ça goûte bon. Puis tu te rends compte, tu finis la formation, puis tu fais comme, ah, ben on s'est quasiment pas parlé, puis on a eu à peine une petite discussion. Lorsque les meilleures retraites, je disais, là, c'est 25-30, là, c'était vraiment un très bon chiffre avec les formateurs qui ont tellement à offrir, puis vous avez une super team encore une fois. C'est un bon chiffre, 30. Je t'encourage. Il fait qu'il
Yes.
reste 10-12 places, là.
Exactement. Ouais, je pense que j'ai confiance que le nombre de participants qui vont être là, ça va être le nombre idéal, le nombre parfait de personnes qui ont besoin d'être là puis de recevoir nos enseignements. Tu sais, moi, je suis plus dans la mentalité de comment oh, il faut pousser pour qu'il y ait des ventes. Je me dis les bonnes personnes vont se présenter puis c'est plus la Jessica qui compte, c'est ce qui va être transmis qui est important dans le fond.
Pourquoi le Costa Rica plutôt que le Québec?
Ben, pour les raisons que je disais plus tôt, dans le sens que pour moi, quand je suis partie à cause de la COVID, j'ai fait le deuil du Québec. Même si pour moi, j'ai encore le Québec de tatoué sur le cœur, là, j'aime vraiment mes racines. Pour moi, c'est super important. Mais j'avais cette espèce de culpabilité là qui m'a été, c'est comme un peu de l'anxiété générationnelle là, de comme me dire que bon si j'existe genre le mieux ce serait de pas exister dans le fond pour la planète pour avoir une empreinte zéro, tu sais. Puis là je me suis dit bon mais ben, comment je peux renverser ça puis avoir un impact positif puis arrêter de me sentir coupable de manger la nourriture que j'ai envie de manger. Puis moi je me suis dit où est-ce que je peux marcher du pied à l'année, manger la nourriture que j'ai envie de manger. Avoir l'une des eaux les plus pures de la planète. Tu sais, en Amérique centrale, le seul pays où est-ce que tu peux boire directement du robinet, c'est au Costa Rica. Puis nous, on a notre propre source, on a notre propre eau de source sur la terre. En haut de nous, c'est juste comme une terre protégée. Fait que notre terre va toujours être organique. L'eau est super pure. L'air est très, très pur aussi parce qu'on est dans les montagnes. Tu sais, c'est une des aires les plus pures, une des eaux les plus pures, avec des fruits tropicaux à l'année. Je peux marcher nu-pied à l'année. Pour moi, c'est comme, tu sais, si j'ai à comparer avec le Québec, même si j'ai le Québec de tatoué sur le cœur, je sens que mes besoins ou mes désirs sont comblés à un plus haut niveau au Costa Rica.
C'est quoi, tu sais, t'as vécu plusieurs expériences de vivre ensemble. C'est quoi tes plus grandes de deux facettes, là, j'ai deux facettes. C'est quoi ta plus grande joie de vivre ensemble et c'est quoi ton plus grand défi de vivre ensemble?
Je trouve qu'ils sont très interreliés, en fait, joie et défi, parce que je dirais que ma plus grande joie, c'est d'avoir des moments de connexion et d'intimité avec plusieurs personnes à la fois. Parce que, tu sais, mettons, quand on vit dans un cocon familial en étant enfant, tu sais, on a nos frères et sœurs, on a notre famille, tu sais, on a une proximité avec plusieurs personnes en même temps, puis on peut créer des liens vraiment forts, tu sais. Puis quand on a soudainement une vie adulte, puis là, on vit seul, on a des amis, tu sais, qu'on voit, peut-être qu'on a une genre de similaire communauté qui ressemble au cocon familial, mais la connexion avec laquelle on repart quand on vit constamment avec ces personnes-là, puis qu'on passe au travers les challenges, puis qu'on nous voit dans nos hauts et nos bas constamment, tu sais, même quand on se tape ses nerfs, puis qu'on n'a plus le goût d'être ensemble, mais qu'on continue, ça crée des liens plus fort que c'est des liens aussi forts que la famille, dans le fond, tu sais, parce que là, c'est on vient créer un cocon interne, une intimité avec des gens qui, c'est notre famille qu'on choisit, en fait. Fait que ça, je dirais que c'est ma plus grande joie, c'est des connexions humaines qui m'apprennent à devenir une meilleure personne, qui m'apprennent à communiquer de façon plus claire, qui m'apprennent à communiquer mes limites, à mettre en mots c'est quoi ma structure, mon identité pour rester en intégrité. Fait que, tu sais, le cadeau, en fait, vient avec un challenge qui est justement mon challenge à moi de pas collapse. Parce que moi, je suis une recovering people pleaser. Donc, j'ai tendance à vouloir faire en sorte que tout le monde soit heureux. Je vois Martin qui rit. Puis, ce que ça m'apprend de plus en plus, surtout en étant quelqu'un qui lead le chemin, tu sais, de mettre mes limites sur par rapport à mon temps, par rapport à ce que je sens qui est aligné ou pas, tu sais. Puis, ça a été tellement une belle croissance pour moi, puis tellement un beau cadeau, mais un beau défi aussi en même temps, tu sais. Fait que, ouais, moi, c'est ça, la chose sur laquelle je travaille présentement, c'est d'apprendre à avoir des limites claires, tu sais. Puis c'est même processus avec des enfants, là. C'est comme plus que je vais être consistante dans mon approche avec les gens, plus que ça va se faire fluidement, puis les gens, à un moment donné, ils vont arrêter de me poser des questions sur ma structure parce que ça, je vais émaner cette clarté-là, tu sais. Fait que c'est comme notre intention de communauté. T'sais. Plus que notre intention est claire, plus que mon intention en tant qu'individu, tu sais, moi, je suis la zone zéro, là, en permaculture, là. C'est plus que la zone zéro est claire et délimitée, plus que le reste qui en ressort. Parce que moi, dans le fond, je suis comme le centre. T'sais, puis, moi, puis JP, on est le centre. Puis après ça, tout ce qui sort de nous va se ressentir à travers la communauté. Donc, la première étape, c'est de prendre soin de moi. Fait que moi, ça m'a vraiment appris là, que religieusement, je dois prendre soin de moi. C'est même plus genre, oh, je vais prendre soin de moi quand je vais avoir le temps, ou je vais prendre soin de moi parce que ça fait du bien. C'est comme, il faut que je prenne soin de moi. Là. Il faut que je prenne soin de moi parce que sinon, the shit is about to explode. C'est comme. Ouais.
J'ai un beau mot là. Attention au gros mot qui va sortir dans la prochaine question là. Quelle serait ta vision la plus utopique, la plus fantasmagorique pour le projet Utopia, Protopia? Où vois-tu le projet là, comme à long terme, là, dans 5-10 ans là?
J'aime ça que tu t'es trompé à dire Utopia parce qu'en fait, Protopia, ça veut dire qu'on se dirige, pas qu'on se dirige vers une Utopia parce qu'une Utopia est inaccessible, mais par définition. Mais le Protopia, c'est qu'on marche un jour à la fois vers quelque chose qui pourrait ressembler à une Utopie, dans le sens que genre 1% par jour, on essaie de devenir meilleur en apprenant vers la direction d'un monde idéal, tu sais. Puis pour moi, le monde idéal, ce serait vraiment d'être entouré de gens qui sont hyper passionnés dans leur domaine. Tu sais, moi, ça m'importe pas vraiment que tu es passionné de quoi, tant que c'est en lien avec notre intention de communauté, là, tu sais, de connexion avec la terre, de permaculture, des arts, du mouvement, du cirque. Mais tu sais, pour moi, que tu sois genre un full geek techno, mais que tu sois vraiment passionné, puis que tu aies donc bien envie d'être au service de la communauté, puis que tu tripes bien raide sur ce que tu fais, moi, je veux être entourée de gens qui sont passionnés. Puis pour moi, une passion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme tu as un circuit électrique, tu as ton énergie physique qui passe sans résistance ou avec un petit peu de résistance. Parce qu'on est tous les humains, on a tous des circuits électriques et on est connectés avec la Terre en circuit électrique. Donc, quelqu'un qui est passionné puis qui a de l'énergie à tous les jours, c'est quelqu'un qui vit en laissant aller les résistances. T'sais, si on regarde un système électrique, là, ce qui fait qu'il y a une lumière au bout, c'est que ça circule. Fait que dans le fond, plus que les gens qui viennent sont des gens qui sont en mesure de laisser circuler l'énergie, plus qu'ils vont être passionnés dans le long terme. Fait que, ouais. Fait que moi, je me vois entourée de gens qui ont un circuit électrique fluide, avec de plus en plus. Moi, j'aimerais ça là qu'on soit une des terres au Costa Rica qui a le plus de diversité au niveau de notre de nos. J'aimerais ça qu'on collectionne toutes les graines là, possibles de fruits et légumes, de choses qui sont partout dans le monde, puis tu sais qu'on se retrouve avec des graines ancestrales qui existent peut-être plus dans le monde. Parce que moi, je crois vraiment que le sol va être de plus en plus riche, plus qu'on apporte, puis autant les humains là, que la Terre, là, plus qu'on a de diversité, plus qu'on a de la richesse. Fait que, ouais, des graines de diversité de partout dans le monde, des gens hyper passionnés, des événements. Tu sais, moi, j'aimerais ça que tous les membres de la communauté soient aussi au service ou impliqués dans le centre de retraite qui va éventuellement devenir un centre d'aide, tout simplement. T'sais. Où est-ce qu'on recevrait des super de gros noms de partout dans le monde, des gens de qui on veut s'inspirer. T'sais, moi, je nous vois, mettons, recevoir Joe Dispenza ou genre des gros noms qui viendraient nous donner une formation, t'sais, pour la communauté. Puis, ouais, ça. Puis, t'sais, pour moi, le côté cirque, là, t'sais, je parle de la diversité des aliments, puis tout ça, mais la diversité humaine aussi. T'sais, j'aimerais ça qu'on ait des gens de partout dans le monde qui ont tout comme quelque chose de spécial à apporter. Puis, t'sais, moi, je tripe sur les gens bizarres, là. Je tripe sur les hors normes, là. Sur les gens qui apportent quelque chose de vraiment différent, t'sais, puis qui sont passionnés à propos de leur affaire, puis qui s'assument. Fait que. Oui, des gens inspirants, des gens vibrants. C'est vraiment ça, en fait, qui est important parce que la base, on l'a déjà, la fondation, t'sais, l'air pur, l'eau pure, les fruits, t'sais, on a déjà ça. Fait que dans 5 ans, moi, je pense que ce qu'on va attirer, c'est les gens. C'est l'élément, qui s'en vient.
Nice, nice. Et c'est une des 7 clés de la réussite. Avoir de la diversification dans la communauté. Parce que c'est bien beau avoir plein de gens en agriculture puis, qui vont tout faire ça, mais si tu n'as personne pour construire tes infrastructures, si tu n'as personne pour gérer les gens dans l'organisation sociale, des retraites, si tu n'as pas personne de techno, on vit dans un monde assez techno maintenant pour faire la promotion, fait que ça prend plein de diversification, puis plus que ça va être diversifié, je crois, plus que ça va être riche.
Oui, définitivement.
Oh, petite question d'ouverture. Qu'est-ce que tu souhaites pour les communautés intentionnelles à travers le monde?
Wow. Qu'est-ce que je souhaite pour les communautés intentionnelles à travers le monde? Je souhaite que, ben, je leur souhaite la même chose que je me souhaite à moi, c'est que les gens restent dans leur intégrité, puis que les bons aimants s'attirent, tu sais, pour qu'on puisse grandir ensemble, puis qu'on reste en alignement avec ce qui fait du sens pour nous, ce qui vibre pour nous, puis que chaque personne puisse trouver l'endroit où est-ce qu'il y a une vibration aussi à l'intérieur, tu sais, que ça l'allume nos cœurs. En vrai, je me sens comme super cliché, là. Mais ouais, je pense que ce qui. Tu sais, j'ai vécu plusieurs morts de l'ego dernièrement, puis je pense que si je mourais demain, la question que je me poserais, c'est à quel point j'ai aimé véritablement, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui, en bout de la ligne, qui est le plus important, c'est que les gens soit capable de trouver l'amour, tu sais, l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Puis je vois beaucoup tu sais, en étant impliquée dans le monde du tantra, je vois beaucoup de croyances limitantes que genre les relations hommes-femmes, ça doit être seulement en partenariat ou sinon il doit y avoir une attraction sexuelle. Puis de plus en plus, je suis intéressée à comment sublimer cette énergie-là sexuelle vers le cœur pour être en mesure de tomber en amour avec tout le monde, tu sais, autant hommes-femmes, puis d'avoir c'est un amour là, comme tellement profond que tu te perds dans le temps, là, mais avec tout le monde. Fait que c'est ça que je souhaite à l'être humain. C'est de rester dans son intégrité puis d'être capable de tomber en amour avec tout le monde.
Merci. Je pense que ça fait le tour. Ça finit tellement bien avec cet élan d'amour envers tout le monde. Puis c'est vraiment pour vivre en communauté, c'est vraiment quelque chose à travailler et à puiser, puis quand tu arrives à y aller, c'est comme un shortcut pour tout, là. On peut se mettre des règles intellectuelles et rationnelles, on peut travailler avec nos sentiments, puis à un certain niveau pour gérer le conflit, mais quand tu arrives dans l'amour, c'est comme tu peux passer par là, puis tu vas aller partout. C'est comme un raccourci là, dans Mario Bros. Là, tu peux prendre un raccourci, puis là, tu t'en vas partout, tu t'en vas dans tous les mondes quand tu passes par l'amour.
J'adore ça.
On se fait-tu un petit tour de table pour avec quoi on repart de cette discussion, puis après ça, ce sera la fin. Ah, je commence. Merci, Jess. C'est comme je te découvre, c'est la première fois qu'on se parle, que je te vois, puis je repars avec de l'inspiration, oui. C'est ça ton but, puis c'est ça que ça allait apporter. Il y a des choses que tu as dit, puis quand je vais éditer, puis que je vais réécouter le podcast, je vais faire « Ah oh oui, là, il y a des choses, il y a des moments où j'ai fait comme « Wow, ça, c'est vraiment bon, là, ce que tu disais. » Puis c'est inspirant et ça l'ouvre de nouveaux horizons.
Je vais poursuivre dans la même voie que Hugo. J'ai écrit quatre mots pendant cette entrevue. C'est inspiration, intégrité dans la structure, l'harmonie et la passion. Voici avec quoi je repars.
Ça résume tellement bien notre conversation. Je trouve que c'est comme les points les plus importants, en tout cas que de mon côté, qui en ressort de cette conversation-là. Puis, comme je disais un peu plus tôt, c'est des fois de s'entendre parler ou de s'écouter dire ce processus mental-là, ça vient réancrer des choses à l'intérieur de soi. Fait que je repars vraiment de cette conversation-là en étant encore plus confiante. Et avec le désir de continuer de laisser la Jess de côté, mais en intégrité avec Dieu, en fait, je dirais, parce que c'est même plus par rapport, ce que je réalise de plus en plus, c'est que c'est plus moi ben quand je dis moi, c'est Dieu, mais genre, c'est plus Jess qui est importante dans l'histoire, tu sais, c'est comme comment je peux être au service, comment je peux get out of my own way, tu sais, pour servir. De façon cohérente de plus en plus. Donc, je me sens très excitée et aussi inspirée.
Dans les commentaires, il y a Ève Monpetit qui dit merci pour ce témoignage, ça me parle énormément. Ouais. Il y a quelques personnes qui ont regardé, dont David Balthazar et Benoît Charbonneau. Salut Benoît. Et salut David. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet enregistrement. Puis on va se dire bye-bye, puis à la prochaine.
Merci.
Bye, bye tout le monde.